C'est le moment d'ouvrir le 18-20. Installez-vous confortablement et soyez les bienvenus comme tous les jours sur la planète dans tous ses états. Et le premier rendez-vous de ce 18-20, c'est avec l'info, ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi de l'Ascension. Et ce soir, on retrouve Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence avec un pont.
Bah oui, celui de l'Ascension bien sûr, avec des bouchons sur les routes, du soleil et de la détente à l'arrivée. On entendra des Français contents de souffler quelques jours comme un avant-goût de l'été. Pas question d'accélérer pour arriver plus vite. Le gouvernement réfléchit certes à moins sanctionner les petits excès de vitesse, mais ce n'est pas encore fait. Côté politique, à droite comme à gauche, on ironise sur ce cadeau très opportun à 2 semaines des législatives. Au sommaire ce soir également, l'Amérique en deuil après la tuerie d'Uvalde au Texas, l'offensive russe qui s'intensifie encore sur l'est de l'Ukraine, l'histoire d'un incroyable retour gagnant, celui de Léolia Jean-Jean, ex-enfant prodige du tennis, qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros, et le conseil musical de Mathieu Culeron, le premier album solo de Daniel Rossen du groupe Gris Libère, du folk rock doux pour les cœurs et les oreilles. Et au programme du 18-20, Christelle.
Eh bien, à 18h15, un jour dans le monde, la variole du singe se répand dans les pays occidentaux, bien loin de l'Afrique de l'Ouest. 7 cas répertoriés en France selon le dernier comptage. Quel est vraiment le risque? Mais surtout, va-t-on devoir s'habituer aux pandémies? Déjà 6 en un siècle. Quelle est la part du réchauffement climatique, des activités humaines? Peut-on les anticiper, voire les prévoir, à défaut de les subir? À 19h20, le téléphone sonne, cherche salarié désespérément, on manque de bras pour l'été et pour après. Dans l'hôtellerie-restauration, l'artisanat, mais aussi chez les cadres, la pression est en train de s'inverser. Les chefs d'entreprise peinent à attirer des salariés qui dictent leurs conditions. Notre rapport au travail a changé, les jeunes en particulier veulent lui donner du sens. Les quadras privilégient le télétravail, on veut travailler à la carte. Comment les entreprises s'adaptent-elles dans l'urgence? Vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000. Le standard vient d'ouvrir.
France Inter.
Avec 760 km de bouchons accumulés à midi sur les routes de France, vous êtes nombreux à avoir mis les voiles pour ce week-end de 4 jours. Les gîtes de France affichent des taux de réservation records. Alors qu'on préfère le vert, la montagne ou la mer, le pont de l'Ascension, c'est un peu un avant-goût de l'été, surtout après 2 ans de Covid et les chaleurs de ces dernières semaines. Parole de vacanciers croisés par Christophe Vincent à Solez, au sud de Lyon, sur l'autoroute A7.
Le soleil, les bouchons, les longues distances, impression d'être en plein été.
On est attendu par des amis du sud quand on se retrouve en fait.
Je vais jusqu'à Canet, dans le 06.
On arrive de Sedan, Marcillac. On va avoir de la famille pour un mariage.
Les 1er et 8 mai étaient des dimanches, d'où cette frustration et cette envie de partir.
Comme il n'y avait pas eu de pont, pour l'ensemble de mes collaborateurs, j'ai imposé ce pont. Parce que je pense que les gens en ont besoin.
Un petit week-end. Je viens de Rouen et là-bas, il fait pas très beau en ce moment.
Ça a déjà un air de juillet-août là, ouais.
Pour faire un petit break, le soleil et tout. On travaille toute la semaine, alors ça fait du bien.
Les longs week-ends, pour nous, c'est sacré, depuis toujours.
C'est le seul pont du mois de mai, là, cette année. On part que fin août après. Là, ça va faire un petit peu du bien. Après, on travaille tout l'été, tous les deux.
La période est éprouvante et la coupure salutaire.
C'est une respiration avec tout ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et c'est une manière de changer d'air. Hein. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe et tout, c'est sûr qu'on a besoin.
Entre le confinement qu'on a vécu, la guerre en Ukraine, en fait, également les élections présidentielles. Et ça fait du stress. On a besoin de pouvoir souffler. Ça fait du bien.
Trop tôt pour penser au retour dimanche qui s'annonce très compliqué. À Solez, sur la 7, Christophe Vincent, France Inter.
Oui, journée noire pour bison fouetté dimanche pour le retour. Et prudence sur les routes, même si le ministère de l'Intérieur réfléchit à alléger les sanctions pour les petits excès de vitesse, c'est encore loin d'être fait. On l'a appris hier, l'idée serait de ne plus retirer de points de permis de conduire en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km/h. L'amende, elle, serait maintenue. Alors du côté des associations de prévention routière, on s'inquiète du message ainsi envoyé. Et à un peu plus de 2 semaines du 1er tour des législatives, l'opposition ironise sur une promesse qui tombe à pic, Élodie Forêt.
Oui, depuis ce matin, l'opposition moque une promesse bien opportune, surtout à droite et à l'extrême droite, qui revendique parfois depuis longtemps la suppression du permis à points, le RN notamment. Son président par intérim, Jordan Bardella, était ce matin sur France 2.
C'est Noël avant l'heure. Non mais c'est toujours formidable les périodes d'élection parce que nous avons été les premiers dans la vie politique et je prends à témoin les déclarations de Marine Le Pen depuis 2012 à réclamer la fin du permis à points.
Le RN pour qui la mesure, si elle était appliquée, n'irait pas assez loin. C'est un tout petit cadeau minuscule à dénoncer Marine Le Pen depuis la Seine-Maritime. Côté LR, là aussi on approuve mais on critique. Comme nous sommes en période électorale, on peut avoir un doute sur les annonces, a notamment lancé Christian Jacob. À l'autre au bout de l'échiquier, colère des écologistes, ex-marcheur Mathieu Orphelin s'en prend à une annonce clientéliste et surtout incohérente avec les 80 km/h imposés lors du dernier quinquennat.
Là, on est vraiment dans l'inverse, complètement incohérent. Ça va conduire à quoi ? Plus de dangerosité et plus de consommation d'énergie.
Une opposition mordante, donc, et une majorité prudente, à l'image de Maud Brejon, porte-parole LREM, qui a tempéré les propos du ministre de l'Intérieur. Rien n'est acté à l'heure où l'on parle.
Merci Élodie Forêt du service politique de France Inter.
18h06 sur Inter aux États-Unis, le Texas pleure ses enfants, Corinne.
Deux jours après l'effroyable tuerie dans une école primaire d'Uvalde, certains expriment leur colère. Des témoins s'interrogent sur le temps pris par la police avant d'intervenir pour arrêter le tireur barricadé dans une classe. Il a fallu attendre l'arrivée d'une unité spécialisée. Aujourd'hui, l'heure est surtout encore au chagrin et au recueillement, à la mémoire des 19 enfants tués et de leurs enseignantes. Correspondance aux États-Unis de Loïc Glory.
Il s'appelait Ouzia, 8 ans, Alexandria, Alitia et Annabelle, 10 ans, ou Eliane, 9 ans, et depuis deux jours, leurs noms fleurissent sur Facebook ou Twitter. Des portraits postés par un parent, une tante ou une sœur, et des messages de désespoir. « Nos cœurs sont brisés », dit une proche de la petite Maïté. Sur une photo, on la voit souriante, un diplôme décerné par son école à la main. La cousine de Nevaé, elle, avait posté un message dès le début de la tuerie, inquiète de ne pas trouver la petite fille, avant de s'exprimer à nouveau quelques heures plus tard. Notre Nevaé a été retrouvée, elle faisait partie des victimes. Un message de colère également de la tante d'Eva Mirales, l'une des enseignantes abattues. Je suis furieuse que ces fusillades continuent, les armes ne devraient pas être aussi facilement accessibles. Le mari de la professeure, un policier, avait participé à peine deux mois plus tôt à un exercice destiné à faire face à une telle attaque. New York, Loïc Loury, France Inter.
Kevin Spacey poursuivi pour des agressions sexuelles au Royaume-Uni. Le parquet britannique annonce l'inculpation de l'acteur américain poursuivi pour 4 chefs d'agressions sexuelles contre 3 hommes à l'époque où il dirigeait un théâtre à Londres entre 2005 et 2013. À Kharkiv, la deuxième grande ville d'Ukraine dans le nord-est du pays, la vie semblait commencer à reprendre son cours normal. Mais aujourd'hui, des bombardements russes ont fait 4 morts et 7 blessés dans la ville. Et les combats s'intensifient encore plus dans le Donbass avec un véritable déluge de bombes. Bonsoir Eric Bégala.
Bonsoir Corinne.
Et la situation sur place est extrêmement difficile.
Oui, c'est dans le Donbass que la Russie a concentré en fait le plus gros de ses troupes. Au moins 20 bataillons attaquent les agglomérations de Sieverodonetsk et Lysychansk par l'est et le sud. 20 autres bataillons tentent de percer les lignes ukrainiennes depuis le nord, avec beaucoup moins de succès. Mais l'étau est en train de se refermer lentement mais sûrement autour des deux villes, les dernières tenues par les Ukrainiens dans la province de Luhansk. Le gouverneur de la province Sergueï Haïdar précisait tout à l'heure que les Russes avaient même atteint et tenu pendant quelques heures des portions de la route principale, celle qui permet de ravitailler la double agglomération. L'armée de Moscou a bien été refoulée de la route, a précisé le gouverneur. Reste que les Russes tiennent dorénavant cet axe stratégique sous le feu de leurs lance-roquettes multiples. Une arme dite de saturation capable de bombarder un axe sur 1 kilomètre de longueur en y distribuant une quarantaine de roquettes de 122 mm en quelques dizaines de secondes. Il sera désormais difficile aux Ukrainiens de ravitailler ou même d'évacuer la poche de Sieverodonetsk-Lysychansk. En passant par cette route, le siège est bel et bien en train de se refermer.
Merci beaucoup Eric Bégala.
En France, une mise en examen qui fait beaucoup de bruit dans le monde de l'art.
On l'a appris ce matin, l'ancien président directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, a été mis en examen hier pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Les juges s'interrogent sur son rôle dans un trafic d'antiquités égyptiennes volées, achetées par le Louvre à Abu Dhabi avec de faux certificats d'origine. On y revient dans le journal de 19h. Et lui n'est pas exposé au Louvre, mais dans l'église d'un village, le Christ sur la croix, un tableau authentique de Rembrandt, et de retour au Mas d'Agenais dans le Lot-et-Garonne. Après 6 ans d'exil dans la cathédrale de Bordeaux, le temps de mettre au point une vitrine blindée ultra sécurisée. Le tableau est revenu discrètement il y a quelques jours pour le plus grand bonheur du maire du Mas d'Agenais, Claude Lagarde.
Moi qui suis né dans le village, je l'ai toujours connu. Il était vraiment pas du tout protégé. À l'époque, on ouvrait un cadre en bois et il n'y avait même pas de vitre devant, quoi. Pour nous, c'est le fer de lance de notre projet de développement touristique de notre village. Et ça peut faire venir des gens de tous les pays d'Europe. Hein. Couramment, on voit des Hollandais, on voit des Belges, des Allemands, des Français d'un peu de toutes les régions. Parce que comme le tableau était donc à l'époque à la cathédrale Saint-André et que l'information n'avait pas été transmise, on a vu beaucoup de gens venir voir le tableau qui sont repartis déçus, quoi. On va vraiment faire en sorte de communiquer au niveau européen pour faire savoir que le tableau est là, qu'ils peuvent venir le voir, le visiter. Il est vraiment magnifique, dans une collégiale qui vient d'être entièrement restaurée et qui est absolument fabuleuse aussi. Et un village qui a des remparts, des portes romanes et puis pas mal de choses à découvrir.
Voilà, Claude Lagarde avec Béatrice Duguay, une belle idée de destination pour un prochain week-end. À Roland-Garros, Hugo Gaston accède au troisième tour en battant l'Argentin Pedro Cachin. Et puis surtout, c'est l'histoire d'un retour extraordinaire, celui de Léolia Jean-Jean. À 26 ans, elle s'est qualifiée ce matin pour le troisième tour également, en battant la Tchèque Karolina Pliskova, huitième joueuse mondiale. Un exploit pour Léolia Jean-Jean, 227e mondial, mais ce n'est pas une inconnue. Il y a 12 ans, elle était un grand espoir du tennis français. Jérôme Val.
C'est la semaine des premières pour Léolia Jean-Jean. Premier tournoi du Grand Chelem, première fois qu'elle sort des joueuses aussi bien classées, premières interviews, difficiles à réaliser pour la joueuse de 26 ans.
Pour être honnête, même quand on me dit ça, je me dis que c'est juste totalement fou. J'ai toujours voulu être à ce stade-là, donc j'en ai toujours rêvé depuis toute petite. Bon, ouais, je pense que je rattrape entre guillemets le temps perdu. Ouais.
Dire qu'elle revient de loin est un euphémisme. Promise à un avenir radieux, elle se blesse gravement au genou à l'âge de 14 ans. Léolia Jean-Jean met le tennis entre parenthèses, se consacre aux études, part aux États-Unis avant de revenir sur les circuits par la petite porte.
Là où je suis contente, c'est surtout de montrer aux gens que bah, ils avaient bien fait de miser sur moi en fait quand j'étais jeune et qu'ils avaient raison. Ils avaient fait le bon choix et que finalement bah, moi aussi je peux bien jouer et que je peux me retrouver à ce stade de la compétition.
En deux tours sur la terre battue parisienne, la Française a changé de dimension. Sa carrière aussi prend un nouveau virage, elle qui vivait du RSA il y a quelques mois.
Concrètement, je peux voilà me payer un coach, une structure, je peux être suivi en tournoi. Là, même au niveau des programmations, je vais pouvoir partir de l'Europe, voyager loin, faire des grands trajets, faire des grandes tournées. Accompagnée, forcément ça change tout.
Dès samedi, elle affrontera au troisième tour la Roumaine Irina Camelia Begu pour un nouvel exploit.
Et c'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Le coup de cœur musical du service culture de France Inter, pour terminer, s'appelle Daniel Rosen. Vous le connaissez peut-être comme chanteur et guitariste du groupe de rock indé-américain Grizzly Bear, quatre garçons de Brooklyn qui ont commencé il y a 20 ans à faire de la musique ensemble. Et cette fois, Daniel Rosen sort son premier album solo, 10 chansons folk rock écrites, réalisées presque entièrement seul. Pendant le confinement, Mathieu Culeron a rencontré Daniel Rosen juste avant le début de sa tournée américaine.
À l'aube de ses 40 ans, Daniel Rosen sort un album beau et magistral, sobre et sensible. Un vrai coup de maître pour l'ancien membre de Grizzly Bear.
Je voulais faire quelque chose de très tangible, très acoustique, en m'inspirant de mes souvenirs d'enfance. Avec ce disque, je voulais être plus honnête, plus ouvert, remettre des sentiments dans ce que je faisais.
Daniel Rosen, nostalgique, va puiser dans la musique de son enfance, mais l'esprit jazz n'est jamais loin, un style qu'il a formé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Adolescent, j'étais assez bon guitariste et j'étudiais le jazz, mais je n'avais sans doute pas le talent nécessaire pour devenir un bon artiste de jazz. Pourtant, j'étais en cours avec Kamasi Washington au lycée et j'ai joué avec lui à l'époque. J'ai ensuite fait de la linguistique et comme j'étais à New York, j'ai vu des tonnes de concerts. Je me suis finalement révélé dans Grizzly Bear. Back when
I was strong. You Belong There, le premier album de Daniel Rosen, un disque qui peut d'ores et déjà concourir au plus bel album de l'année 2022.
Pas facile à couper, c'est joli, hein. Non, Daniel Rosen, You Belong There, conseil signé Mathieu Culeron, c'est à vous Christelle.
Et Corinne Audouin pour le journal. Merci et à tout de suite. N'oubliez pas de revenir pour Un jour dans le monde. Vous nous raconterez comment la guerre en Ukraine contraint le Brésil à être inventif. Le pays est en pointe sur la recherche d'engrais naturels et puis nous irons aussi au Maroc qui revisite son passé. Ce soir, nous sommes avec le professeur Yazdan Pana, directeur de l'ANRS qui s'occupe des maladies infectieuses émergentes. La variole du singe a été signalée dans notre pays. Est-ce grave, docteur? Mais surtout, va-t-on devoir s'habituer aux pandémies? Et puis en deuxième heure, le téléphone sonne. Où sont passés les salariés? Recruter devient un parcours du combattant pour les chefs d'entreprise. Certains en sont à passer des annonces sur les réseaux sociaux. Les candidats dictent leurs conditions d'embauche. Le monde à l'envers. Comment en est-on arrivé là? Que raconte cette pénurie de bras de notre société et aussi de notre rapport au travail? À vos téléphones, vous connaissez le numéro, le 01 45 24 7000. Elle est au travail, sur le pont. Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
La météo pour ceux qui font le pont et pour tous les autres. Beaucoup de nuages au nord demain matin?
Oui, ce sera encombré de la Bretagne vers la région parisienne, Champagne-Ardenne et la Lorraine. Pas mal de nuages aussi sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Ailleurs, les éclaircies seront belles. Alors ça n'empêchera pas quelques grisailles ici ou là. Mistral et Tramontane se maintiendront demain jusqu'à 70 à 80 km à l'heure. Et puis pour les températures, le matin, 8 à 14 degrés jusqu'à 16 à 23 en Méditerranée.
Et l'après-midi, plus de soleil?
Oui, il s'imposera quasiment partout. Alors on retrouvera tout de même une bande nuageuse des Pays de la Loire vers le centre Val-de-Loire, la Bourgogne, l'Alsace. Des nuages aussi sur les Alpes du Sud avec un risque d'averse et d'orage. Et puis pour les températures, ça montera un petit peu. 16 à 20 degrés près de la Manche, 21 à 25 sur les autres régions du Nord. Et au Sud, on aura 24 à 28 degrés et même 28 à 33 autour de la Méditerranée. Il va faire chaud demain.
C'est le moment d'aller à la plage. Merci Élodie.